chapitre 6, verset 12. Si vous avez difficile à retrouver Zacharie, c'est juste après Agée et avant Malachie. Alors si ça aussi c'est compliqué, il y a des Bibles, il y a des tables et des matières. Zacharie chapitre 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu. Un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu. Comment vivre une vie pleine? Les pasteurs a rappelé tout à l'heure les canevas tels que nous l'avons donné les premiers jours et que nous essayons de suivre. Hier, nous avons commencé à voir les lois de la vie. Et nous avons mentionné Job 38, verset 33, où Dieu montre à Job qu'il y a des lois que le ciel a établies, et ces lois ont leurs répercussions sur la terre, des principes auxquels nous sommes appelés à nous soumettre. Et ne pas nous y soumettre, c'est passer à côté de quelque chose. Et parmi les lois que nous avons commencé à voir, hier nous avons parlé de la loi du processus. Je n'aimerais pas trop y revenir, si vous avez la possibilité, recherchez les cassettes ainsi que les DVD, vous aurez la possibilité de nous rattraper en termes de connaissances. Et ce soir, j'aimerais, selon que le temps va nous permettre, aborder deux autres lois qui nous amènent vers l'accomplissement de ces destins qui nous rend capables de vivre une vie pleine. La deuxième loi, c'est la loi de la préparation. La loi de la préparation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous ceux et tous celui que Dieu appelle à vivre une vie pleine, Dieu ne l'amène pas du coup comme l'avons dit hier. Dieu fait un processus. Mais au-delà du processus, Dieu nous prépare. Le terme préparer signifie quatre choses. Premièrement, préparer, c'est rendre prêt avant l'utilisation. Il y a dessein, il y a projet d'utilisation, et puis on rend prêt. Je sais que bientôt je veux aller couper du bois, j'essaie de bien limer ma machette, afin qu'au moment de l'utilisation, je puisse avoir les résultats maximaux. Deuxièmement, préparer, c'est mettre un outil ou un instrument en état de remplir sa tâche pleinement. Mettre un outil ou un instrument en état de remplir sa tâche pleinement ou de jouer son rôle. Troisièmement, préparer, c'est disposer au mieux une chose en vue d'une utilisation prochaine. Disposer au mieux une chose en vue d'une utilisation prochaine. Dans Jean au chapitre 14, Jésus-Christ dit au verset 2, « S'il n'y avait point de place, je vous l'aurais dit, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je veux disposer au mieux un endroit afin que quand vous y veniez, que tout soit prêt. » Quatrièmement, préparer, c'est faire passer quelqu'un ou quelque chose par un traitement afin de permettre une utilisation efficace ou la production des résultats adéquats. Et par rapport à la préparation, j'aimerais dire un certain nombre de principes. La préparation attachée à ta marche, à ma marche. Premier principe que j'aimerais dire, la préparation est nécessaire, pour ne pas dire incontournable. Elle est nécessaire, pour ne pas dire incontournable. Dans Psaume 89, au verset 20, c'est l'homme de Dieu qui parle et Dieu lui donne la révélation de l'appel de David et comment David a évolué. Il dit, j'ai trouvé au milieu du peuple un jeune homme et il dit, j'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. Les termes élevés tels qu'il est utilisé là, en araméen ou en hébreu, cela ne veut pas dire faire changer de hauteur. Non, les termes élevés peuvent aussi être traduits par éduquer. Faire passer par un processus de préparation. Et vous savez, Dieu a compris pourquoi la préparation est importante. Quelqu'un est devenu roi sans préparation, Saül lui s'appelait. Et il n'a pas su produire les aptitudes escomptées, non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il n'avait pas été préparé pour la tâche. Et Dieu s'est dit, si je fais de Saül aussi, plutôt de David, un roi sans préparation, David sera un Saül bis. Et Dieu préfère quelquefois laisser un Saül défaillant et prend le temps de préparer un David pour que David ne soit pas la répétition de Saül. Il a rejeté, mais 13 ans, il les laisse. Et durant ces 13 ans, il prépare David, afin que quand il va arriver, qu'il fasse des résultats maximaux. Aide-moi à dire à ton voisin, laisse-toi préparer par Dieu. Dis-le lui aussi calmement de sa part, de ma part, même s'il n'est pas content, dis ne sois pas pressé, toi aussi. Hein, s'il a l'air triste, dis, c'est pas moi, c'est Roland Dallo qui m'a dit de te dire ça. Elle est nécessaire, pour ne pas dire incontournable. Pourquoi tu n'enlèves pas Saül et dis, sinon David sera un autre Saül. Je veux le préparer. Deuxième principe, c'est que la longueur de la préparation dépend de la qualité de notre utilisation future. Plus Dieu veut et va vous utiliser pour de grandes choses, une vie pleine, plus il prendra le temps de vous préparer. Daniel chapitre 1er au verset 5. Ainsi que le verset 19. Ce roi-là, il avait besoin de personnes performantes. Et puis il s'est dit, ça c'est pas une question des heures. Ça c'est pas une question des jours. Il dit, cherchez-moi des jeunes gens beaux, des races royales, et dit, je vais les préparer durant 3 ans. Et ce n'est qu'au bout de 3 ans qu'ils seront au service du roi, pas avant, pas après. Si je les mets à mon service, une année après, ils ne seront pas performants. 2 ans, c'est après 3 ans qu'ils auront tout ce qu'il faut. Et le verset 19 nous montre qu'au bout de 3 ans, ce roi est venu vérifier et il s'est rendu compte qu'ils avaient assimilé suffisamment. Que des gens à qui nous rendons mauvais service parce que nous les propulsons trop tôt. Ils sont un problème pour eux-mêmes et puis ils deviennent un problème pour nous. La longueur de la préparation dépend de la qualité de notre utilisation future. Troisième principe. La préparation a un temps favorable. Et ce temps favorable, c'est avant l'utilisation. J'ai vu quelquefois dans nos nations, surtout chez nous au Congo, des fois on fait accéder des gens à des postes et ils apprennent en occupant les postes. Des stagiaires dirigeants. Alors qu'ils auraient dû accumuler des connaissances et venir simplement exercer. Et les passages des 1 roi 6, 7 que nous avons lus confirment cela. Dans une carrière, on a taillé des pierres. Tout a été fait dans la carrière et on a déplacé de la carrière vers un autre endroit. Utilisation, la Bible dit, aucun coup de marteau. Aucun coup de hache. Que des gens pour qui Dieu est obligé de donner encore des coups de marteau, mais alors qu'ils sont déjà en train d'être placés. Ramenant encore les marteaux là. Même les murs risquent de tomber. Je prie que Dieu vous taille avant. Pas après. Quatrième principe, c'est que la préparation peut avoir plusieurs visages. Elle peut avoir un visage formel, tout comme elle peut avoir un visage informel. Elle peut être systématique, tout comme elle peut être non systématique. J'aimerais même aller plus loin en disant qu'il y a des choses que Dieu laisse et permet dans notre vie en vue de la préparation qui nous équipe. Et des fois, il nous dit pas en sifflant, la préparation a commencé. Des fois, il vous fait passer à votre insu par des circonstances, par des situations qui vous forment. Il sait où il vous amène et il sait le pourquoi. Quand vous aimez Dieu, vous le craignez, vous voyez même des choses contraires vous arriver, ne vous plaignez pas. Vous savez, au fil des années, j'en ai 49 ans seulement, et la petite érosion que j'ai sur la tête me rappelle cela. Et dans mes presque 30 ans dans les seigneurs et 27 ans dans les ministères, j'ai appris au fil des années. Auparavant, j'ai loué trop Dieu pour sa force. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais avec les années, pasteur Élie, j'ai appris à louer Dieu pour son intelligence. J'aime le dire souvent, Lingala, Nzambaza Mayele. Nous, les Kinois, pas les Katangais, nous disons Nzambaza Bouliste. Il a des boules. Il a des idées. J'ai appris à bénir Dieu pour son intelligence. Quand vous vivez assez longtemps, des choses, quand vous les vivez, vous ne les comprenez pas. Vous commencez à comprendre comme si c'était un puzzle. Il a fallu ça pour m'amener là et arriver à ça. Oh, mais pourquoi j'avais pleuré là? Sans ça, je ne serais pas là et je n'aurais pas ça. Il y a des murmures pour lesquels, des temps après, ça devient des confessions. Seigneur, pardonne-moi d'avoir murmuré en ce moment. Ne soyez pas prompt à vous plaindre. Vous savez, Dieu ne nous explique pas tout. S'il nous expliquait tout, ça serait glorieux. Si la veille de sa vente, Joseph avait entendu une voix rauque, « Joseph, mon fils, demain, quand tu iras voir tes frères, ils vont t'attraper et ils vont te jeter dans une citerne. Mais ne crains rien, je maîtrise tout, Joseph. Et puis après, on te vendra dans une maison et là, une femme va te provoquer des problèmes. Mon petit Joseph, ne crains rien. C'est mon chemin. Les grands pensaient que Dieu restait silencieux. C'est cela, quelquefois, nous voyons le diable là où c'est Dieu. Si Joseph était aujourd'hui, on l'amènerait au combat spirituel. Frère Joseph, il y a trop de successions d'infortunes. Il doit avoir des liens, Joseph. Je ne dis pas que le combat spirituel n'existe pas. Mais je dis quelquefois, on voit des démons là où il n'y en a pas. J'ai prêché une fois sur moi, chez nous à l'église à Kinshasa, sur le combat spirituel. J'ai dit, la nuit, il fait tellement froid comme ça arrive de temps en temps à Kinshasa. Et un chat est en train de passer. Dans le langage des chats, il pleure. Il dit, miaou, miaou. Dans le langage des chats, il dit, j'ai froid, j'ai froid. Et c'est lui qui est à la maison. Coco, Kami, sautez! Tu ne vas pas nous avoir. Le pauvre chat, il a froid. Dommage que moi, je n'entends pas les quichas. Dans les quichas, il est en train de dire, il fait froid. Comment je peux faire? Tu ne sais pas, là, on enterre mon nombril. Je disais, j'ai appris à bénir Dieu pour son intelligence. Joseph ne comprend rien, mais Dieu est derrière. Et j'aime au soir de sa vie, il dira à ses frères, ne vous affligez pas. Ne soyez pas attristés de m'avoir vendu. J'aime ce qu'il dit. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Ah bon, Joseph, aujourd'hui, tu vois Dieu? Avant, tu pensais que c'est la méchanceté des hommes. Dieu nous prépare. Et dans sa préparation vers la royauté, où il a exprimé pleinement ce que Dieu avait en vue pour lui, quelqu'un comme David a eu 5 étapes attachées à sa préparation. La première étape, elle est informelle. 1 Samuel chapitre 7, verset 1 dit, le père de David fit de lui les gardiens du troupeau de la famille. Seigneur, papa, pourquoi seulement moi? Il y a des boudeurs, des enfants, des boudeurs professionnels. Il y a tous les enfants, pourquoi seulement moi? C'est toi qui vas garder les troupeaux. C'est que David ne sait pas, c'est que c'est une étape dans la préparation. Quand Dieu permet que son père lui confie cette tâche, il veut imprimer en lui, en termes de préparation, 3 qualités. La première qualité, c'est le sens de la planification. Vous savez, quand les brebis ont brouté de l'herbe quelque part ou ont bu de l'eau, et le soir on vient les garder, aucune des brebis ne réfléchit, demain on va brouter où? Où est-ce qu'on va boire l'eau demain? C'est le travail du berger. Qui alors qui fait rentrer les brebis, se dit, aïe, aïe, aïe. Au nord, là où on est allé, l'herbe, il s'en fout. Il y en a de moins en moins. Il faudra que je pense. Et ça, c'était le travail de David. Dieu voulait imprimer dans leur vie. David, les jours qui viennent, quand les gens seront en train de dormir, c'est à toi, les rois, de réfléchir sur leur bonheur. Mais je te donne comme travail, TP, les brebis. Je veux qu'au travers des brebis, tu puisses avoir ces réflexes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait rien pour rien. Deuxième et troisième aptitude que Dieu voulait placer en lui, c'est le sens de la responsabilité et le sens du sacrifice. David témoignera plus tard devant le roi Saül, lui dit, quand un ours venait attaquer les brebis, je fouillais, n'est-ce pas? Quand un lion venait attraper, je fouillais, n'est-ce pas? Il dit, je l'attaquais et j'arrachais, prêt à mettre sa vie en danger pour que ceux qui sont sous sa responsabilité soient protégés. Et le Dieu responsable dit, je suis en train de les préparer. Enfin, qu'ils soient prêts demain à payer les prix les plus élevés pour le bonheur des autres. Et quand Dieu réalise qu'il a assimilé ces quelques leçons, deuxième étape de sa préparation, 1 Samuel 16, verset 21. Sans concours, sans que lui-même ne fasse des efforts, on part de lui au palais royal pour venir jouer la harpe pour le roi David, le roi Saül. Mais quand il arrive dans la maison, non seulement qu'il joue la harpe, mais la Bible dit aussi qu'il devint porteur d'armes. Dieu prend un petit villageois et dit, si je le fais passer du village au palais royal, il aura des problèmes d'ajustement. Là, j'aimerais qu'il s'habitue aux us et coutumes, qu'il voie les bonnes manières. On salue comment? On dit bonjour comment? J'aimerais qu'il soit près du trône, qu'il observe. Un roi se comporte comment? Il ne met pas son doigt dans les nez pour chercher je ne sais quoi. J'ai vu des gens amener à des postes de responsabilité. Il est en train de faire un discours devant 5000 personnes au palais du peuple, en direct à la télévision. Il veut faire passer une page, il fait. Mais est-ce qu'on peut les blâmer? Personne ne lui a appris. On l'a improvisé. Il est sincère, mais sincèrement, il s'en trompe. Et Dieu dit non, je vais préparer David, qu'il côtoie la royauté, qu'il voie, ah bon, c'est comme ça que l'on mange. Ça me rappelle un ami, il m'a dit, je rigole avant, il avait 38 ans, il dit, il n'est jamais monté dans un avion. La première fois, sa grande sœur demande qu'il accompagne ses fils et tous ses enfants, les moins âgés, je pense, avaient 6 ans, le plus âgé devait avoir 13 ans, ils sont montés dans l'avion au moins 100 fois. Il dit, quand ils se mettent dans leur fauteuil, il dit, Roland, tu sais la meilleure? Quand on disait, il faut fermer la ceinture de sécurité, je ne savais comment fermer. Il dit, j'ai simplement regardé mon petit neveu qui avait 7 ans, qui avait bien fermé. Je lui ai dit, les trucs-là que tu as fermés, est-ce que tu sais ouvrir ça? Il lui a dit, oui, j'essaie. Dit, ouvre un peu, je vais voir. Ok, ferme encore, je vais voir. Ouvre encore et ferme. Ok, tu sais vraiment. Mais il est en train d'apprendre. Dieu veut préparer David. Il imprime des choses en lui. Troisième étape de la préparation de David. 1 Samuel chapitre 22, verset 1 à 2. Quand Dieu estime qu'il a déjà acquis ça, sens des responsabilités, planification, il a appris aussi l'organisation ainsi que la planification. Dieu dit, je l'amène au palais pour qu'il maîtrise les comportements. Dieu dit, j'aimerais lui donner un petit cours de la gestion des ressources humaines. 1 Samuel 22, verset 1 à 2, il dit, tout ce qui avait des dettes, tout ce qui avait des créances, tout ce qui était mécontent vinrent autour de lui et il devint leur chef. Chef de 400 personnes. À l'époque où moi j'ai grandi à Kinshasa, vers les années 73, 75, les gens forts, leur nom se terminait par Os. Kingos, Ngokotos, Rabos, Nyakos. Je ne sais pas au Katanga, c'était comment? Pareil, Pekos. Et donc, David, il ne dirigeait que les Pekos, les Ngalos, des gens sans foi ni loi. Tout ce qui avait des dettes, Dieu dit, tu auras dirigé un pays où tout le monde ne sera pas bien. J'aimerais que tu apprennes à diriger des gens difficiles. Et je te donne un petit échantillon. Gère-les, des mécontents, ceux qui ont des dettes, des murmureurs professionnels. Mais ce que j'aime, il les a transformés en vaillants héros. Amen. Votre leadership se mesure à la capacité d'influencer les gens et de les changer. Amen. 400. Et ils se sont soumis à lui. Préparation. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre que ce chemin par lequel tu es en train de le faire passer, c'est une préparation. Même ce job que tu fais, où tu as ce petit Mexicain qui te traite d'une manière, quand tu es là, tu regrettes. Moi, j'ai un diplôme de l'Unique, tu vois. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu ne fait rien pour rien. Quatrième étape de sa préparation, 2 Samuel chapitre 2, verset 4. David devint roi, mais des deux tribus. Dieu aurait pu directement lui donner la royauté. Mais Dieu va avec lui. Les brebis, 400 hommes, et puis deux tribus. Et là, il commence à voir les réflexes du roi. Et quand Dieu comprend que c'est bon, cinquième étape, et c'est la finalité, 2 Samuel 5, 1 à 4, il est roi de tout Israël. Et le comble, c'est qu'entre la quatrième étape et la cinquième, 7 ans et 6 mois. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu avait promis à David qu'il allait devenir roi, il lui avait dit qu'il allait succéder à Saül. Et David est étonné quand lui, les maquisards, il apprend qu'on a un roi au nom bizarre, Ishbochet. J'aurais été David, je dirais à Dieu en lingala, nous ne sommes pas entendus comme ça. D'où est venu cet homme au nom compliqué? J'aimerais dire à quelqu'un, Ishbochet ne tue jamais la promesse de Dieu. Même quand tu le verras sur le trône, sache que le trône est à toi. Dieu lui-même sait comment faire pour te donner ce trône. Même Joseph aussi a eu sa préparation avant qu'il ne soit placé en position d'exercer un leadership et d'être le canal qui a accompli les plans ainsi que les projets de Dieu. Il a connu la maison de Potiphar. Genèse 39, 4 à 5 nous en parle. Potiphar lui confia tout. Il devient l'intendant. C'est lui qui vérifiait la quantité qu'il y avait d'huile, la quantité de riz, pas de rupture de stock. Dieu ne fait rien pour rien. Les aptitudes qui nous rendent capables de diriger un pays commencent par la maison de Potiphar. C'est lui qui sait maintenir l'intendance dans la maison de Potiphar saura demain maintenir l'intendance dans un pays. Je n'ai pas toujours compris, très jeune dans notre foi, on nous a confié des cellules. Et j'ai pu vous dire, dans nos cellules, nous étions presque des pasteurs. De telle sorte que plus tard, devenu pasteur, pas beaucoup de nouvelles choses. Et ceux qui ont manqué ces cursus manquent beaucoup. Dieu ne fait rien pour rien. Et de la même manière qu'il a fait avec David, quand il a estimé que ce qu'il devait apprendre dans la maison de Potiphar, il a appris ressources, gestion des ressources humaines aussi dans la prison. Genèse 39, verset 22, il arrive en prison, on fait de lui chef de la prison. Le petit jeune homme dirigeant des gens au casier judiciaire sombre. Mais Dieu sait ce qu'il fait. J'aimerais que vous et moi ayons cela. Souvenez-vous, le quatrième principe que j'avais mentionné, c'est que la préparation peut avoir plusieurs visages. Et le cinquième principe que j'aimerais que vous et moi nous puissions noter, c'est que c'est Dieu qui sait lorsque la préparation est complète et que le temps pour nous de passer à autre chose est arrivé. Il arrive des fois, nous estimons c'est suffisant, mais lui dit c'est pas encore suffisant. Il y a encore des inputs que je dois faire et des outputs aussi. Combien on s'estime prêt alors qu'on est, on l'est pas encore réellement. Sixième principe, c'est que chaque fois que la préparation qui a comme finalité de nous rendre prêts prend fin, Dieu lui-même travaille en notre faveur et provoque des circonstances pour nous placer dans une position où nous pouvons maintenant exercer. Je le disais ce matin quand j'enseignais aux femmes et aux hommes de Dieu qui étaient ici. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont indispensables pour leur promotion. Je leur disais comme à qui on dit « faux perso ». Je dois moi-même travailler pour moi. J'aimerais te dire, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Il peut lui-même agencer les choses. Genèse 41, verset 8 à 14. Quand Dieu a voulu maintenant promouvoir Joseph parce qu'il estime que la formation est à son comble, un, il a provoqué un songe. Et deux, il a rendu ce qui expliquait le songe avant incompétent. S'ils étaient là, ils recevaient un salaire, ce qu'ils expliquaient toujours. Mais ces jours-là, ils étaient rendus incapables d'expliquer parce que Dieu voulait promouvoir quelqu'un. J'aimerais te dire, ce qui est à toi, ça reste à toi. Rien ni personne ne peut t'empêcher d'avoir cela. Et j'aime ce qui est dit. On fit sortir Joseph en prison en hâte. Je prie que tes bénédictions viennent hâtivement. De manière précipitée. Et le voilà qui est placé en position de responsabilité. La troisième loi que je veux que nous puissions voir ce soir, avant que nous puissions passer un petit moment dans la prière, j'ai à cœur qu'on prie ce soir avant de quitter ces lieux, c'est la loi de la localisation. Il n'y a pas de vie pleine non attachée à un endroit. Parler de localisation, c'est de parler d'une position fixe et déterminée d'une personne ou d'une chose dans l'espace. Quand on dit se localiser, on veut dire s'implanter à un endroit ou s'enraciner. En lisant et en étudiant la parole de Dieu, on se rend compte d'une chose, l'importance de l'emplacement géographique. Étonnant en lisant la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1, lorsque Dieu appelle Abraham, écoutez ce qu'il dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Seigneur, pourquoi tu ne peux pas faire ces choses là où il est? Pourquoi tu dois coûte que coûte les déplacer géographiquement? Va-t'en, bouge. » J'aimerais dire, certaines choses sont attachées à un endroit. Si tu n'es pas à l'endroit de la chose, tu n'auras pas la chose de l'endroit. Genèse chapitre 22, verset 2. Lorsqu'il veut qu'Abraham puisse offrir un sacrifice bizarre, lui-même lui indique l'endroit. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en du pays des Morijah. Et là, offre-le en holocauste. Va-t'en. Mais Seigneur, je peux le faire ailleurs, à Morijah, pas ailleurs. Il y a un secret dans la Bible attaché au lieu. Luc 24, verset 49. Jérusalem est devenu un endroit difficile à vivre à cause de la persécution. Mais Jésus fait la promesse à ses disciples et dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Restez à Jérusalem. Mais Jérusalem est impopulaire. Restez là. Mais Seigneur, pourquoi je n'irai pas à Béthanie que le Saint-Esprit me suive là? Tu seras à Béthanie, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Il y a un rendez-vous divin, mais à un endroit. Ce que j'aimerais enseigner ce soir, c'est de vous dire ces trois principes, et je vous prie de les noter. Le tout premier, c'est que tout endroit n'est pas l'endroit de l'accomplissement de notre destin. Tout endroit n'est pas l'endroit de l'accomplissement de notre destin, l'endroit où nous allons vivre pleinement. Tout endroit ne l'est pas. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des endroits spécifiques auxquels appartient notre épanouissement et notre éclosion. Des endroits qu'il faut identifier, des endroits vers lesquels il faut aller et des endroits où il faut rester. Dans Zacharie chapitre 6, verset 12, je reviendrai encore sur ce passage tout à l'heure. C'est l'Éternel lui-même qui parle et qui établit un principe. Il dit, tu parleras ainsi à mon serviteur, voici un homme dont le nom est Germe, mais il dit, il germera en son lieu. J'aimerais nous dire, tout lieu n'est pas notre lieu de germination. On a un lieu de germination. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Troisième principe, c'est qu'il y a quatre types d'endroits que nous retrouvons en lisant et en étudiant la parole de Dieu. Premier type d'endroit, il y a des endroits que Dieu permet que nous puissions transformer. Des endroits qui changent à cause de nous. Proverbe, psaume plutôt 84, verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Elle n'a pas certaines choses, mais parce que moi j'arrive là, cet endroit, il est transformé. Deuxièmement, il y a des endroits qui nous transforment, mais négativement. Ruth, chapitre 1er, verset 20 à 21, nous parle de Naomi, ainsi que son mari. Ils habitent un endroit appelé Bethléem, supposé la maison du pain. Mais la maison du pain est attaquée par la famine. Et regarde en face, il y a Moab, pays réputé être maudit. Mais il y a beaucoup de pain. contradiction. Là où la bénédiction est censée être, on l'a en théorie, mais pas en pratique. Et on lève les yeux, le pays qui est censé être maudit est maudit en théorie, mais en pratique, il y a du pain. Faut-il rester là où on a les choses en théorie, mais pas en pratique? Ou bouger là où, en théorie, ils sont maudits, mais en pratique, il y a du pain? Étonnant les phrases que la Bible utilise. La Bible dit, cet homme appelé Élimélec et sa femme, l'avait dit, il partit pour faire un séjour. Les termes séjour-là, en araméen, veut dire, ils sont partis juste pour un temps, c'est-à-dire, allons juste retirer ce qu'il faut et nous allons revenir. Mais la Bible dit, quand ils arrivaient à cet endroit, ils y demeura. La version en araméen dit, quand ils arrivèrent à cet endroit les attacha. Et ce qui était l'endroit des rêves pour apporter des solutions aux problèmes est devenu un endroit des problèmes. Élimélec mourut. Maclon et Cligeon moururent. De telle sorte que Naomi elle-même, elle décide, je ne m'appelle plus Naomi qui veut dire grâce, parce que je n'ai plus rien de gracieux. Appelez-moi Mara, amère. Et quand elle rentre à Bethléem, les gens la regardent, écoutez ce qu'elle dit. J'étais allé les mains pleines et Dieu me ramène les mains vides. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans ça? Si tu avais les mains pleines, pourquoi tu étais parti? Un lieu qui l'a transformé. Luc chapitre 15, versets 11 à 16, nous montre aussi un jeune homme transformé négativement. C'était un prince dans la maison de son père. Et il en avait assez de ces lieux. Il dit, je veux aller voir ailleurs. Il a juste bougé géographiquement. Le prince est devenu mangeur de la nourriture des cochons. Simplement parce qu'il a bougé géographiquement. Mais ce que j'aime, de la même manière, un mauvais choix l'a fait bouger d'un endroit pour l'appauvrir, mais un autre choix correctif l'a fait revenir à l'endroit où il a récupéré certaines choses. Troisième type d'endroit, il y a des endroits où il y a notre provision et qu'il nous faut découvrir et rester. Dans 1 Roi chapitre 17, versets 3 à 4, alors qu'il y a la famille dans le pays, Dieu envoie un message à Élie. Il dit, va au torrent de Kérit. Et j'aime ce qu'il dit après, je te nourrirai là. Dites avec moi, là. Pas ailleurs. J'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas dans votre là, vous allez mourir de faim. Parce que Dieu donne un cours de géographie au corbeau. En disant, chaque fois tu iras 5 degrés longitude est, 8 degrés longitude nord, c'est à cet endroit que tu jetteras le pain le soir et la viande. J'aimerais dire à quelqu'un, ton pain et ta viande peuvent descendre à un endroit et toi tu es ailleurs, mourir de faim sincèrement et maudire Dieu. Alors que ton pain et ta viande sont en train de pourrir quelque part. Va au torrent, je te nourrirai où? Là. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, êtes-vous dans votre là? Je ne veux pas vous choquer. Certains d'entre nous, notre là, c'est le Canada. Notre là, c'est les États-Unis. Mais d'autres, leur là, c'est le Congo. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, le 20 mars 97, à 10h20, je n'ai jamais oublié, j'étais dans notre chapelle à Nairobi. Dieu m'a dit, Roland, ton lieu d'éclosion, c'est Kinshasa, RDC et Lukamakasi. C'est mon là. Je viens de temps en temps ici, j'ai joui de vos bonnes routes, mais j'ai rentré dans mon là. Je dois vous dire entre nous. Quelquefois, quand je rentre au Congo, c'est avec tristesse sur le plan humain. Tu arrives ici, tout est désordonné à l'aéroport. Tout le monde est sourire. How are you doing? Tu atterris juste en disant, yo, Yakawa! Et moi-même, quand j'arrive, je dis, Fumunzambi, Fumunzambi, Mambo Masobele. Seigneur, les choses sont abîmées ici. Mais n'empêche, malgré ça, c'est mon là. C'est là où mon pain descend. Élie, je viendrai de temps en temps te faire bisous, avoir ton bon thé là. Mais puis je rentre dans mon là. Un jour, je sors de chez moi, j'entre sur le boulevard du 30 juin. Au niveau de la régie des eaux, et puis j'arrive vers Photoguil. Je clignote bien pour rentrer, pour ceux qui connaissent encore, vers les ronds-points Forestcom. Je vois une dame en tenue de police et de sortir. Ah! Tu n'avais pas clignoté. J'ai dit, mais les clignotés encore, elle dit en retard. Allez, ouvre la porte, je vais entrer au bureau. Si tu discutes, tu verras, je vais te citer les articles du code, je suis resté là. Je disais que j'ai pris ou que j'ai la cogne. J'ai commencé à penser qu'avant ma conversion, j'avais fait un peu du judo. Et dès qu'elle est montée, j'avais une grosse Bible entre les deux parce que je venais d'exhorter quelque part. Je courbe juste, regarde la Bible et me demande en langue. Osa, pasteur? Donc, tu es pasteur? Je dis, mais pourquoi ces questions? Il dit, arrête-toi un peu. Je dis, non, mais il dit, arrête-toi. Je dis, quel est le problème? Et puis, il s'est dit, pasteur, on dirait que je te vois à la télévision. J'ai dit oui. Pasteur au clignotant Guénaïo. Pasteur, tu avais clignoté. Tu avais réellement clignoté. Et je lui dis, où est le problème? Il dit, j'ai faim. Il dit, j'avais demandé à mon chef, il dit, je suis même seulement secrétaire, je ne suis pas censé travailler sur la route. Je suis secrétaire au bureau, j'ai demandé à mon chef, achète-moi quelque chose. Il dit, toi avec ta tenue, tu meurs de faim. Il dit, alors en sortant, je me disais, le premier que je vois, innocent, il va mourir. Et dommage, le premier, c'était moi. Quand je vois tout ça, je dis, quand je viens au Canada, natika la tonatika natika, que je reste ou pas. Mais n'empêche, malgré tout ça, c'est mon là. Combien il est bon d'identifier son là. Et d'être dans son là. Quatrième type d'endroit. Il y a des endroits qui sont neutres. Ces endroits, quand vous y êtes, ils ne vous enrichissent pas. Ils ne vous appauvrissent pas. Des endroits qui ne vous changent ni positivement, ni négativement. Mais j'insiste pour dire, comme Zacharie 6, 12 dit, tu diras ainsi à mon serviteur, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu. Prenez un peu un pommier, allez les planter dans la forêt équatoriale, malgré le jeûne et les prières. Ça ne va jamais germer, parce que ce n'est pas son endroit. Tu le déplaces simplement, tu l'amènes à Ottawa. Il se met à te sourire. Il dit, mais où est-ce que tu étais avant pour me placer ici? Seigneur, aide-moi à être à mon endroit. Je ne vais pas vous influencer. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas appelés à rester ici éternellement. Et vous le savez au fond de vous. Certains d'entre vous doivent élever les enfants, aider les enfants à aller jusqu'à un certain niveau et puis retrouver votre là. Mais d'autres doivent rester ici, ne bougez pas. Venez en congé à Kin. Nos moustiques vont vous accueillir parce qu'ils aiment votre peau douce. Ils vont bien vous piquer. Mais puis revenez ici. comment il est important de connaître sa localisation. Les termes germer utilisés ici, en hébreu, veut dire se développer. Dis à mon serviteur, germe, il se développera quelque part. Le terme germer veut aussi dire apparaître et exister aux yeux des autres de manière visible et remarquable. Dis à mon serviteur qu'il a un endroit où il se développera et il apparaîtra de manière remarquable. Certains n'atteindront jamais la pleine forme que Dieu a pour eux en restant à un endroit. Il vous faut être à l'endroit voulu par Dieu. David, dans son parcours, il a eu quelquefois difficile à quitter certains endroits de lui-même. Il a fait lorsqu'il a su que sa vie était en danger. 1 Samuel chapitre 19, verset 12, il ne pouvait pas quitter le palais royal. C'est au moment où sa vie a été menacée qu'il a bougé. Je parlerai tout à l'heure avant de conclure des endroits qu'il ne faut jamais quitter. Retenez ceci. Les endroits où nous allons ne sont pas simplement de lieux géographiques neutres. Ils peuvent être des endroits attachés à notre progrès ou à notre régression. C'est pourquoi il est important que dans tout mouvement géographique, nous consultions Dieu. Il y a dans la parole de Dieu sept types d'endroits que je vais mentionner et puis nous allons clore ce soir. Premier type d'endroit, il y a des endroits que les circonstances nous imposent. C'est-à-dire, ce n'est pas un endroit de notre destin, mais c'est un endroit où il nous faut rester un moment. Ce sont des endroits de protection. Pour un temps. Dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, ainsi que 19 à 20, la Bible nous enseigne cela. Et chaque fois que j'enseigne sur ces passages, j'aime secouer les trop spirituels. Il y a des gens qui sont trop spirituels plus que Dieu lui-même. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et j'aime les verbes. Fuis, dites avec moi, fuis. » Qui propose la fuite? Le Dieu Tout-Puissant. Moi, je suis enfant de Dieu, je ne vais pas fuir. Moi, je vais rester ici. La Bible dit, nous ferons la guerre et nous vaincrons pas. Et Hérode, c'est qui? Moi, je suis Joseph. Hérode ne nous fera rien. Dieu dit, prends l'enfant et fuis. 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 Quand on grandissait, petit garçon avec une chanson, on disait, tout l'amour ici. Fuis. Quatre pattes. Fuis. Déplace-toi. Et va en Égypte. Et j'aime ce qu'il dit, jusqu'à ce que ceux qui en veulent à l'enfant puissent mourir. Mais Joseph avait conscience, c'est un endroit momentané, avec comme objectif la protection. Je ne resterai pas ici éternellement. Mais ce que j'aime encore plus tard, le même Dieu, sentant que l'adversité est partie, verset 19 à 20, quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, retourne, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Pourquoi Dieu savait que c'est le lieu de vivre pleinement pour Jésus, c'était Israël. Mais pour un moment de protection, je te déplace en Égypte. Mais ne reste pas en Égypte. J'aimerais dire à un Jésus que Dieu a déplacé en Égypte, retourne en Israël le moment venu. Vraiment rentrer. Mais avec ce que j'apprends, qui est arrivé à l'aimer au loto. Si Dieu dit rentre, fais quoi? Juges chapitre 11, versets 1 à 6. nous parle des endroits où les gens nous chassent et nous déracinent, mais où Dieu lui-même viendra nous remettre. J'aimerais dire, il y a des endroits où les gens vous enlèvent des forces, mais parce que Dieu sait que c'est votre endroit de vivre pleinement, il vous fera lui-même remettre. Ils chassèrent Jephté. Tu ne vas pas hériter avec nous. Dieu laisse qu'une situation arrive, une guerre. Ils essayent de tout faire. Rien du tout. Entre eux, ils se regardent. Il y a quelqu'un qui peut mieux faire le leadership. Ils se regardent dans les yeux. Personne n'a le courage de citer les noms. Et puis l'un des dix cite le nom. Il dit, et si Jephté, exactement, moi aussi j'ai pensé à lui. J'aime comment Dieu fait. On l'a chassé pour qu'il ne règne pas sur une famille. Mais quand Dieu le fait retourner, il règne sur un pays. Laisse Dieu faire ce qu'il sait faire. Lui-même, les remet, ils sont allés les chercher. Troisième type d'endroit, il y a des endroits difficiles, mais qu'il ne nous faut pas quitter. Car ils ont des choses qui nous appartiennent. Je l'ai mentionné, Luc 24 et 49, persécution en ce moment, mais Jésus dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour attendre le Saint-Esprit, ils voyaient des militaires passer. Où sont les gens de Jésus? On veut les tuer leur maître. Où sont-ils? Et la Bible dit, ils avaient les portes barricadées, mais c'est l'endroit où il fallait attendre. Quatrième type d'endroit, il y a des endroits que nous devions quitter car les gens ne reconnaissent pas notre grâce en ces lieux et retrouver l'endroit où notre grâce est célébrée. J'ai enseigné ce matin en lisant Jean chapitre 10, du verset 1 au verset 39, plus de 4 reprises on veut lapider Jésus. On lui dit, tu te fais passer pour le Fils de Dieu. On veut les lapider. Toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Mais bizarre. Jésus bouge simplement géographiquement. Le verset 39 dit, Jésus alla jusqu'au Jourdain, à l'endroit où il fut baptisé. Il y resta là. Et le verset 42 dit, tous ceux qui vinrent crurent en lui. Souvent nous voulons rester là où les gens ne croient pas en nous. Alors qu'il nous suffit simplement de bouger géographiquement, nous retrouverons un endroit où les gens croient en nous. Vous restez, vous voulez... Il ne faut pas changer la vie pour l'engager. Je ne resterai pas jusqu'à ce... Bouge simplement. Il arrive à un autre endroit, ils crurent en lui. Cinquième type d'endroit, il y a des endroits qui contiennent notre éclosion et où les circonstances apparemment malheureuses nous envoient. Nous n'y allons pas parce que nous voulons, mais c'est Dieu qui nous envoie malgré nous. Genèse 37, 28 et 36, Joseph est vendu par ses frères en Égypte. Un peu comme lui faire du mal, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez, tuons-les, nous verrons ce que deviendront ces songes. Apparemment, ils pensent qu'il les jette dans les oubliettes. Mais c'est qu'ils ne savent pas qu'il envoie à l'endroit où il va vivre pleinement. Vous savez, il y a des poubelles qui se transforment en villas. Les gens te jettent, mais ils voient ce que Dieu fait avec la poubelle et la poubelle devient valeureuse. Sixième type d'endroit, il y a des endroits où nous ne devons pas aller, sinon nous sécherons spirituellement, matériellement, financièrement. Abraham ose descendre en Égypte à cause de la famine. Il est obligé d'être intercesseur de sa femme. Parce que pour se protéger, il dit, va dire au Pharaon que je ne suis pas ton mari, que je suis ton frère. Pauvre Pharaon, chaque jour à 6 heures, il voit quelqu'un vient toquer. Je viens simplement savoir si ma sœur va bien. Ruth 1 et 6, nous en avons parlé. Élimélec est mort. Lui qui pensait que Bethléem allait l'aider à vaincre la famine. Septièmement, et je finis par là, il y a des endroits où Dieu nous veut pour un temps. Mais il nous faut reconnaître la durée et savoir bouger avec lui. Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 8. Le Dieu qui avait fait quitter Israël en Égypte et qui, dans son projet, savait que Horeb devait être une étape. J'aime l'adverbe qu'il utilise lorsqu'il leur parle. Il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Le problème n'est pas demeurer, le problème c'est le temps. C'était dans mon plan, dans mon projet que vous restiez, mais vous êtes resté un peu plus de temps que prévu. Il dit, partez, voyez, j'ai mis devant vous le pays. Combien de fois nous restons plus longtemps là où nous ne devions pas rester? Il y a des endroits où Dieu nous veut, mais il nous faut savoir bouger. En conclusion, combien il est important d'être là où Dieu veut que nous soyons, bougeant avec lui, restant s'il ne dit rien. Dans Exode 33, verset 15, Moïse dit une chose merveilleuse, c'est que j'ai pris que ça puisse être ton partage, mon partage. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. J'aimerais me rassurer que dans mon mouvement, je suis avec toi. Que dis-je? Tu y es avec moi. Exode 40, verset 36 à 37, quel merveilleux passage. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'il s'éleva. Ils bougeaient avec Dieu et ils restaient aussi avec Dieu. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tu reconnaisses ton lieu de germination et que tu t'y accroches. Ce soir, j'ai à cœur, alors que nous sommes assis, tiens simplement la main de ton voisin, de ta voisine. J'aimerais inviter mes frères et sœurs, les musiciens, ils vont nous aider juste pour un petit moment. Je ne sais pas quel est le cantique que Dieu va leur inspirer. Mais je voudrais que tu pries pour ton frère et ta sœur que tu tiens. Seigneur, je ne sais pas dans quelle phase de préparation tu es en train de faire marcher mon frère et ma sœur. Aide-la à être souple, à te laisser faire ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Aide-les à ne pas être comme de l'argile résistante entre les mains du potier. Parce que plus l'argile est résistante, plus elle retarde le processus. Mais prie aussi pour ton frère et ta soeur en disant, Seigneur, qu'ils comprennent et qu'elles comprennent la loi de la localisation. Qu'elle soit là où elle veut que tu sois. Soit momentanément, soit pour toujours. Mais s'il doit bouger, qu'il puisse savoir quand bouger. Je suis triste quand je vois des gens se mouvoir selon les modes. Non, ces derniers temps, c'est à Ottawa que ça marche et tout le monde y va. Ces derniers temps, c'est à Alberta et tout le monde y va. Est-ce que Dieu te veut là-bas? Ah non, j'ai appris, mais ces derniers temps aux États-Unis, c'est vers Colorado que ça marche. Tous ceux qui y vont réussissent. Est-ce que Dieu te veut là? Je ne sais pas quel est le cantique que Dieu va inspirer à nos bien-aimés. Ils vont nous l'entonner un petit moment. Nous allons les chanter. Et puis après, tu prieras pour ton voisin et ta voisine. Je sens même dans mon cœur un peu commencer à élever nos voix et la musique va nous suivre après. Shandorobo sandaraba yondorobo shanta. Mm-hmm. Je sens dans mon cœur, il y a quelqu'un qui sent le désir de se mettre à genoux. N'hésite pas de le faire. J'aimerais que les instruments continuent à jouer. Que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit laissent les paroles en langue monter. Je sens un vent de l'Esprit ce soir ici. Yikabo shebe mandorobo sandara bashko.